Et c'est le journal de Sébastien Legénie. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, la grande fête du cinéma français, 44e cérémonie des Césars ce soir avec cette question. L'année 2019 sera-t-elle enfin l'année des comédies? Réponse en début de journal. Dans l'actualité aussi ce matin, la mort du djihadiste Fabien Klein en Syrie, la reprise de l'usine Ascoval très compromise, les victimes d'abus sexuels au sein de l'église qui attendent des gestes concrets de la part de l'épiscopat. Nous serons à Rome dans ce journal. Et puis l'Académie française, elle, s'apprête à reconnaître l'utilisation du féminin pour les noms de métiers. Ça bouge sous la coupole, Nicolas.
Et je vous rappelle que dans 20 minutes, à 7h50, l'invité d'Ali Badou ce matin est le spécialiste de la démocratie, le philosophe Bernard Manin.
France Inter.
Et si une comédie, Sébastien, remportait enfin le César du meilleur film?
Oui, c'est une hypothèse crédible cette année parce que deux comédies se sont hissées dans le trio de tête des nominés. Le Grand Bain de Gilles Lelouch et En Liberté de Pierre Salvadori. La comédie souvent synonyme de carton dans les salles obscures, mais souvent considérée comme un genre mineur par la grande famille du cinéma français. Et cette année encore, rien n'est gagné, Corinne Pellissier.
Qu'est-ce que je vous ai dit? Il n'y a personne qui...
Olivier Nakache, Éric Toledano en ont encore la gueule de bois. 10 nominations l'ont passé pour Le Sens de la Fête, pas une seule récompense. Même chose ou presque pour Intouchable en 2012, 17 millions d'entrées, 9 nominations, un seul trophée pour Omar Sy. À l'heure du palmarès au César, les comédies ont la vie dure, à tel point que l'Académie a fini par instaurer l'année dernière le très controversé prix du public, indexé sur les entrées en salle. Olivier Barou viendra ce soir chercher sa récompense pour le troisième volet des Tuches avec ses 6 millions d'entrées.
Comptez Jeff Tuches.
Et pourquoi?
Parce que c'est mon nom.
Jeff Tuches, président.
7% des voix. Paraît que c'est beaucoup.
Ça, c'est énorme, ça veut dire que sur 7 Français, il y en a 100 qui votent pour toi.
Aucune certitude en revanche pour les trois comédies soumises aux votants. Gilles Lelouch, Alex Lutz et Pierre Salvadori parviendront-ils alors à renverser la table et conjurer le mauvais sort? Sur le papier, ils sont plutôt bien placés avec 10 nominations, c'est le record pour Le Grand Bain.
Tu sais nager au moins?
Ouais, pas mal, enfin.
Non, parce que c'est bon. C'est dans l'équipe.
Tous les espoirs sont permis. Guillaume Gallienne, en 2014, avait raflé la mise et même cumulé les récompenses du meilleur film et du meilleur premier film.
Les garçons et Guillaume à table.
En fait, vraiment, j'ai répété.
Il y en a plein qui vivent très heureux.
Merci, maman.
Voilà Corinne Pellissier, 44e cérémonie des Césars, c'est ce soir sur Canal+, avec Kad Merad en maître de cérémonie et deux temps forts, un hommage à Charles Aznavour disparu en octobre dernier et un César d'honneur pour le grand Robert Redford.
Et il est 7h34, Sébastien, cette question désormais, à quoi va ressembler l'acte 15 des Gilets jaunes demain en France?
Deux événements prévus dans la capitale sur Facebook qui appellent tous les deux à se rassembler sur les Champs-Élysées. En région, c'est Clermont-Ferrand qui concentre les inquiétudes. Les autorités anticipent 3000 à 10 000 manifestants. Autres villes concernées, Épinal, Bordeaux, Lille, Toulouse ou encore Strasbourg. À noter ce pique-nique des Gilets jaunes au château de Chambord, là où Emmanuel Macron avait fêté son anniversaire en décembre dernier. Emmanuel Macron, qui n'a pas épargné hier les fameux corps intermédiaires qu'on lui a souvent reproché d'avoir négligé, le chef de l'État ne s'est pas privé de critiquer syndicats et patronats lors d'une réunion à l'Élysée devant les présidents des départements. Des partenaires sociaux incapables de trouver un compromis sur la réforme de l'assurance chômage. On écoute la charge du président de la République.
Plusieurs d'entre vous ont parlé des corps intermédiaires, c'est devenu très à la mode. On dit aux partenaires sociaux: trouvez-nous une solution pour le chômage. Vous êtes autour de la table, vous êtes responsable. Elles ont rendu hier au gouvernement la copie. On est dans un drôle de système tout de même, où chaque jour, dans le pays, on dit « corps intermédiaires, démocratie territoriale, démocratie sociale, laissez-nous faire ». Et quand on donne la main, on dit « bon, monsieur, c'est dur.
Voilà,
prenez-la. »
Voilà pour la critique du chef de l'État contre les partenaires sociaux au micro de Julie-Marie Lecomte. Ce n'est pas dans la fonction publique d'État, mais à l'hôpital que travaillent en majorité les hauts fonctionnaires les mieux payés. Résultat d'une enquête inédite de l'INSEE, ces praticiens hospitaliers gagnaient en 2016 près de 6 500 € net par mois. Elles risquent, elles, 1 000 € d'amende avec sursis pour avoir fait une remarque à des policiers. C'est l'histoire de Caroline, 44 ans, qui attend aujourd'hui le jugement de son procès devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Caroline est devenue, malgré elle, cet été une délinquante solidaire, comme les appellent les associations, délinquante pour s'être étonnée des conditions de voyage d'un sans-papiers expulsé dans son avion à Roissy. Son histoire racontée par Mathilde Dehimi.
L'avion pour Erevan n'a pas encore décollé. Caroline en profite pour changer sa fille quand elle entend des cris en sortant des toilettes.
Il y avait la police, un homme attaché, et il portait sur la tête un casque de boxe retourné. Donc on voyait pas son visage. Il était, voilà, avec ce truc noir sur la tête. Pour moi, c'était une vision affreuse.
Elle s'indigne alors auprès des policiers.
J'ai dit assez fort pour que les autres gens entendent. C'est horrible. Il y a quelqu'un qui est attaché au fond de l'avion et qui crie. Les policiers m'ont dit que c'était une sorte d'appel à la rébellion.
Un policier lui dit que l'homme menotté est un violeur d'enfants, ce qui est faux. Elle reste observer la scène, ce qui lui vaudra plus de 24 heures de garde à vue, puis un procès mi-janvier.
On me reproche une entrave à la circulation d'un aéronef. À cause de mon comportement, j'aurais empêché l'avion de décoller. Il y avait déjà du retard avant cet incident. Je suis sortie sans problème et j'étais absolument pas partie à l'aéroport pour empêcher l'avion de décoller.
Le procureur a requis 1000 euros d'amende avec sursis. À la barre, après elle, deux hommes risquent pour s'être opposés à une expulsion dans un autre avion. Un an de prison avec sursis. Les peines requises sont de plus en plus sévères, constate l'ANAFE, Association d'aide aux étrangers.
Mathilde Dehimi, les femmes à l'honneur et à l'agenda aujourd'hui de l'Académie française. L'Académie qui s'apprête à reconnaître l'utilisation du féminin pour les noms de métiers, préfète, informaticienne, procureur, ou auteur. En 2014, l'Académie avait rejeté fermement ces barbarismes, mais les choses bougent. À la fin du mois, une commission de 3 académiciennes et académiciens soumettent cette question au vote de l'auguste assemblée. Jacqueline Métrose.
Le rapport sera présenté dès jeudi prochain, 28 février, au vote des académiciens et académiciennes. On verra à ce moment-là si l'évolution sera actée rapidement ou non. La féminisation des noms des métiers peut paraître anecdotique. Que l'on dise officiellement avec référence dans le dictionnaire « Madame la ministre » ou « la chef de service » est pourtant, qu'on ne s'y trompe pas, un pas important dans la reconnaissance du travail des femmes. Depuis l'entrée de Marguerite Yourcenar dans la docte assemblée, ce serait même une nouvelle révolution. L'Académie française est là pour observer et établir ou non la règle des transformations à long terme du langage. Créée en 1634, elle a la réputation de prendre son temps pour intégrer les nouveautés. Pourtant, cette fois, les choses sont allées plus vite. La commission a été formée fin 2018. Hélène Carrère-Dancausse, qui tient à son titre de madame le secrétaire perpétuel, a voulu cette commission pour étudier calmement le sujet. Mais il devenait difficile pour l'Académie française, elle-même lentement de plus en plus féminisée, de rester trop longtemps hors du débat de la place des femmes dans la société.
Jacqueline Pétrose du service culturel de France Inter. Squelette, poison, affaire, ombre, step ou automobile, tous ces mots qui ont changé de sexe, c'est aussi à retrouver sur franceinter.fr, Nicolas.
Il est 7h39, direction le Vatican, Sébastien, avec le sommet organisé par le pape autour de la lutte contre les abus sexuels au sein de l'Église.
Un sommet que le souverain pontife veut concret et efficace. Les associations de victimes y veilleront. Elles comptent bien se faire entendre pendant toute la durée du sommet jusqu'à dimanche prochain à Rome, Mathilde Imberti.
Le sommet sur la pédophilie a démarré par des témoignages chocs, des victimes traumatisées qui dénoncent l'aveuglement de l'institution, le silence qui leur a été opposé quand elles ont voulu dénoncer les faits. Les 114 évêques réunis à Rome les écoutent, bouleversés. Le pape l'est aussi, raconte un témoin de la scène. Les associations qui fédèrent les victimes réclament des garanties et ne lâchent pas d'une semelle les organisateurs de ce sommet inédit. Chaque midi, après la conférence de presse officielle, elles convoquent les journalistes pour redire leurs exigences. Miguel Hurtado est une victime espagnole du scandale des Maris de Barcelone qui a éclaté en 2016 seulement.
Pour l'instant, il n'y a aucune mesure sur l'indemnisation des victimes. Les victimes sont traumatisées, ont besoin de soins et cela coûte de l'argent. C'est l'Église qui doit payer. Ils promettent des mesures concrètes, mais on ne doit pas parler la même langue.
Car le pape a promis des mesures concrètes et avance même 21 pistes de réflexion précises. Mais pour Peter Sanders, victime britannique, il manque l'essentiel.
Tout prêtre ou nonne condamné pour des abus doit être exclu de l'Église à jamais. et tout supérieur qui les aura couverts doit être démis de l'état clérical, à vie. Forever.
Les victimes de prêtres pédophiles organisent pour demain samedi une grande marche dans Rome pour la tolérance zéro. Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
En bref, encore l'étranger, la fierté de l'état hébreu s'est fait. La première sonde lunaire israélienne a décollé cette nuit de Cap Canaveral sous le regard de Benjamin Netanyahou. Si l'alunissage réussit dans cette semaine, l'état hébreu deviendra le 4e pays à avoir fait atterrir un module sur la satellite de la Terre.
7h41 pour terminer, Sébastien, quand les nouvelles technologies rendent service aux vieilles pierres.
Quand des drones permettent en effet de passer au scanner chaque faille d'une cathédrale vieille de 800 ans, ça se passe à Sens où depuis deux semaines la cathédrale Saint-Étienne est photographiée sous toutes les coutures pour un diagnostic complet de l'édifice. Le reportage de Laurien Navarre.
Un drôle de bruit résonne en la cathédrale de Sens. C'est un drone qui mitraille de photos l'intérieur de l'édifice.
On va réaliser par exemple sur une façade de 300 mètres carrés environ 200-220 photos. On multiplie par 20 millions de points.
Aux manettes, c'est Guy Houin de Sodera Expertise.
Ce sont vraiment des images techniques que l'on va ensuite travailler pour remettre aux architectes des documents précis de la géométrie et de l'état de la cathédrale aujourd'hui.
Ah, un nouveau bruit pour un nouvel outil.
C'est une grosse machine qui est installée sur un trépied. Et donc là, il y a une tête qui pivote sur elle-même. Donc ça fait un relevé dans tous les axes.
Voilà le scanner laser. Il mesure chaque millimètre de la cathédrale. In fine, on se retrouve avec des millions de points, une sorte de carte interne très précise, explique Hugues Delambilly de la société TPLM 3D.
On a donc toutes les informations sur où sont les joints des pierres, que ce soit la déformation aussi de la rosace par exemple, voir comment elle a bougé au fil du temps.
Toutes ces données seront stockées, les architectes auront un accès direct via leur ordinateur et ce sera à eux de décider si un chantier est nécessaire en la cathédrale de Sens.
Voilà, une sorte d'IRM pour cathédrale, c'était le reportage de Laurien Navarre de France Bleu Auxerre.